Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, ils ont la soixantaine, souvent rentiers, et ils font partie du club des Français les plus riches, qui sont les premiers de cordée, si cher à Emmanuel Macron. L'INSEE dresse leur portrait robot à découvrir dans un instant. Et si on avait tout faux sur l'hôpital, après des années à fermer les petites structures un peu partout en France, un rapport remis au gouvernement suggère au contraire d'ouvrir plus de 500 petits hôpitaux. Pas assez de candidats dans l'éducation nationale, le ministre Jean-Michel Blanquer envisage de baisser le niveau de recrutement. On pourrait désormais entrer dans l'éducation avec un bac plus 3. Il réfléchit, mais pour l'instant, il reste. Il est ce matin dans le studio de France Inter, votre invité dans 20 minutes, Nicolas. C'est Nicolas Hulot.
Oui, monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la prochaine Miss America qui n'aura pas à défiler en maillot de bain. La Grande-Bretagne qui rejoue Notre-Dame-des-Landes. Les orages toujours sur la France. Et puis un drôle de touriste qui débarque pour l'été, l'un des plus beaux tyrannosaures jamais découverts. Sort les griffes à Paris.
France Inter.
Ils tiennent le bon bout de la corde, parfois encensés, souvent critiqués. Mais qui sont-ils précisément et d'où vient leur argent? Bonjour Hélène Philippe.
Bonjour.
Vous venez d'éplucher la dernière étude de l'INSEE sur les revenus et le patrimoine des Français, notamment des Français les plus riches, ce 1% de la population qui gagne plus de 9000 euros chaque mois.
Et on peut le dire, on est loin de la Startup Nation, si chère à Emmanuel Macron. Ces plus riches sont âgés, moyenne d'âge, 59 ans. Les chiffres datent de 2015. Ils sont en couple, ces plus riches. Ils sont urbains, vivent pour les deux tiers en Île-de-France, propriétaires aussi de leur résidence principale et bien plus. Les plus aisés déclarent un patrimoine important, ils captent 30% de la part des revenus du patrimoine en France. Ces Français devraient profiter à plein de la dernière loi de finances, que ce soit avec la transformation de l'impôt sur la fortune ou avec la baisse de la fiscalité sur le capital via la flat tax.
À l'autre bout du fil maintenant, il y a ces 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1000 euros chaque mois. Qui sont-ils?
Alors de grandes disparités d'une catégorie professionnelle à l'autre. 3% de cadres pauvres, mais près de 25% d'agriculteurs. C'est la profession la plus touchée. On peut aussi noter l'écart. 7% de pauvres chez les retraités, 15% chez les ouvriers, 11% chez les employés. Les familles monoparentales sont de plus en plus frappées par la pauvreté. C'est un autre point marquant de cette étude. Le nombre de personnes pauvres vivant dans une famille avec une mère ou un père seul augmente d'un million depuis 1996, note l'Institut. Et à l'heure du débat sur le nombre et l'efficacité des aides sociales, l'INSEE le pointe, c'est grâce aux différentes prestations sociales que 33% de bénéficiaires du RSA et 58% des allocataires du minimum vieillesse arrivent à vivre au-dessus du seuil de pauvreté.
Merci Hélène Philly.
Et c'est le rapport qui fâche Marc et qui vient contredire des années de politique de santé.
Pour la première fois depuis 17 ans, la Sécu sera presque à l'équilibre cette année, mais à quel prix? Combien de petits hôpitaux fermés au nom des économies? Eh bien, un rapport remis aujourd'hui au gouvernement suggère de faire exactement l'inverse, signé du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Il préconise d'ouvrir des centaines de petites structures et d'y intégrer la médecine de ville. Célia Kigray.
D'après ce rapport, tout doit dépendre des besoins du patient. Il continuera d'aller en premier chez le médecin généraliste, mais si des soins plus importants sont nécessaires, il pourra aller dans un hôpital de proximité où travailleront côte à côte des médecins urgentistes, des radiologues, des biologistes et même des médecins de ville pour gérer les petites urgences. Les femmes enceintes, les patients atteints de maladies chroniques, les personnes âgées seront également suivies dans ces établissements de santé communautaires. C'est le terme employé dans le rapport. C'est un scénario de rupture car il va à l'encontre de la tendance actuelle qui est de fermer les petites structures. Il faudrait même 550 à 600 hôpitaux de ce type selon le rapport. Ensuite, à un troisième niveau, si le patient a besoin de soins plus pointus, il sera admis comme aujourd'hui dans un service hospitalier spécialisé comme dans les CHU. Le but est de décharger les urgences. La grande nouveauté est surtout de réunir sous le même toit médecins libéraux et hospitaliers. Les syndicats approuvent et ils croient savoir que ce rapport sera étudié de très près par Emmanuel Macron. Il pourrait s'en inspirer pour réformer l'hôpital.
Et les arbitrages sur l'hôpital sont attendus à la fin de ce mois. Quelle suite pour la grève à la SNCF après le vote du Sénat hier et alors que les cheminots sont à nouveau appelés à cesser le travail à partir de ce soir? C'est une intersyndicale qui tranchera demain, poursuite du mouvement en juillet, voire en août, ou alors suspension dès la mi-juin pour permettre aux candidats du bac de passer sereinement les épreuves. Des futurs bacheliers justement qui ont les yeux rivés sur Parcoursup. Deux semaines après le coup d'envoi de la procédure, les trois quarts des candidats candidats ont reçu au moins une réponse positive pour la rentrée. C'est mieux que les prévisions du gouvernement. Dans le même temps, l'Éducation nationale lance, je vous le disais en titre, une nouvelle opération de recrutement des profs. Le métier ne fait plus rêver. Alors le ministre Jean-Michel Blanquer envisage de baisser le niveau d'études requis pour passer les concours. Il pourrait recruter désormais à bac plus 3 au lieu de bac plus 5, ce qui serait, Solène Lehen, une petite révolution dans l'éducation.
Avec ces pré-recrutements, les étudiants de licence qui se destinent à l'enseignement pourraient déjà mettre un pied dans l'éducation nationale. L'hypothèse qui fait consensus, précise le ministère, ce serait que ces étudiants passent un premier concours à bac plus 3. Ils seraient formés et rémunérés pendant un ou deux ans, sans forcément être tout de suite mis devant une classe. Et ensuite, ils valideraient définitivement le concours lors d'un oral. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Ce qui est évident, c'est que nous avons besoin de pré-recrutement, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui se destinent à la fonction de professeur, à qui on donne les moyens de s'engager dans cette carrière. Cela peut se passer de différentes manières, par exemple en ayant plus d'assistants d'éducation dont la vocation est de devenir professeur. Tous les systèmes qui permettent d'encourager le plus en amont possible la vocation professorale sont des bons systèmes.
Autre levier du ministre pour attirer de nouveaux candidats au concours, une prime de 3000 euros pour les enseignants de REP, des zones les plus difficiles, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les négociations débutent dans les prochains jours avec les syndicats. Il y a urgence, la crise des vocations s'amplifie. Cette année, pour les concours de professeurs d'allemand et de lettres classiques, avant même les oraux, il y a moins de candidats admissibles que de postes à pourvoir. Même chose pour les concours de professeurs des écoles dans les académies de Créteil et Versailles.
Les enseignants sont-ils eux aussi privés de portables à l'école? La mesure doit s'appliquer, on le sait, aux élèves de primaire et de collège à la rentrée. Mais des députés de la majorité ont ajouté un amendement à la proposition de loi qui sera examinée demain. Ils souhaitent que l'interdiction du portable concerne l'ensemble du personnel éducatif.
Inter 8h07, un peu de culture et beaucoup de diplomatie au menu de la visite de Benjamin Netanyahou en France.
Hier soir, le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron ont donné le coup d'envoi de la saison croisée France-Israël. Manifestation culturelle censée marquer l'entente entre les deux pays, mais d'entente hier soir, il n'y eut pas vraiment. Les deux hommes ont constaté leur désaccord sur la question du nucléaire iranien. Et alors que Benjamin Netanyahou est à Paris, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme s'inquiète d'une campagne de boycott menée en ce moment en France. Boycott des produits israéliens comme les dattes par exemple, retirés des rayons de certains supermarchés par des activistes qui filment la scène et la diffusent ensuite sur Internet. Philippe Randé.
Ces actions sont de plus en plus nombreuses. Les mots sont de Samy Gozlan, le président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui a déposé 3 plaintes pour des actions anti-Israël ces dernières semaines dans des supermarchés de Chambourcy, de Décines et d'Itsatsou dans les Pyrénées-Atlantiques. Des plaintes soutenues par Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
Il y a une première responsabilité, c'est les responsables des magasins qui doivent faire appel à la force publique. Et il y a également une deuxième responsabilité qui est cette fois à l'échelon gouvernemental. L'appel au boycott est interdit dans notre pays. Ces activistes sont en contravention flagrante avec la loi. Ils doivent être arrêtés, sanctionnés et le mouvement interdit.
Et selon Francis Khalifa, pas de doute, derrière ces actions se cache le mouvement BDS comme boycott des investissements sanctions. Un mouvement qui depuis 9 ans organise des actions en réponse, je cite, à l'impunité d'Israël. Imen Habib est l'une des animatrices de la campagne BDS France.
On ne peut pas proposer aux gens des produits qui sont fabriqués sur une terre qui a été volée aux Palestiniens. Et on va continuer à intensifier ces actions parce que cette saison France-Israël, c'est un véritable scandale. Israël vient d'assassiner plus de 115 Palestiniens et on reçoit Netanyahou au Grand Palais.
Selon le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, il y a eu en France une trentaine d'actions d'appel au boycott d'Israël depuis le début de l'année.
En Afrique, un conflit vieux de plus de 20 ans est peut-être en train de se régler. L'Éthiopie a fait savoir hier qu'elle met fin à son litige avec son voisin érythréen. Conflit sur la frontière entre les deux pays qui s'était fait la guerre à la fin des années 90.
Et comment dit-on Notre-Dame-des-Landes en anglais?
Réponse, Heathrow, comme le nom du principal aéroport de Londres. Oui, c'était simple. Depuis 50 ans, les Britanniques discutaient de l'opportunité de lui construire une nouvelle piste. Écologiste d'un côté, partisan du développement économique de l'autre, ça rappelle quelque chose. La première ministre Theresa May a finalement tranché en faveur des travaux d'agrandissement, mais sa décision pourrait créer une sorte de mini-ZAD au sein de son gouvernement. À Londres, pour France Inter, Antoine Gignot.
Pour Boris Johnson, c'est une catastrophe. Le chevelu ministre des Affaires étrangères promet même d'aller s'allonger devant les bulldozers pour stopper les travaux. Avec l'augmentation du trafic, chaque jour, 700 avions supplémentaires pourraient survoler la circonscription dans laquelle il a été élu et dont le ciel est déjà en permanence strié par les traînées des réacteurs. À l'inverse, le ministre des Transports, Chris Grayling, évoque une avancée historique. Il met en avant la création de 60 000 emplois et un bénéfice de 80 000 milliards d'euros à l'horizon 2050. Mais les débats au Parlement vont être houleux. Les élus du SNP écossais soutiennent le projet. Les libéraux-démocrates s'y opposent, comme les Verts. À gauche, les travaillistes attendent de voir les résultats des tests sur le bruit, la qualité de l'air et les retombées économiques. Plusieurs associations de défense de l'environnement parlent aussi d'aller porter l'affaire en justice. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Fini les candidates en petite tenue aux États-Unis. Le scandale MeToo est passé par là. Les prochaines prétendantes à la couronne de Miss America n'auront plus à défiler en maillot de bain. Séquence remplacée par un échange avec le jury. Au placard également, les robes du soir avec froufrou et paillettes. Désormais, c'est la beauté intérieure qui compte. De quoi donner des idées peut-être à nos Miss ici en France. C'est ce que dit et c'est ce qu'espère surtout Raphaël Rémy-Leleu, l'une des porte-paroles d'Oser le Féminisme.
Dans un monde encore très sexiste, et où les femmes sont soumises en permanence à des injonctions contradictoires face à l'injonction à la beauté, face à l'injonction à la maigreur. La liberté, ça n'est pas celle que l'on croit. Ce qui est intéressant dans l'évolution de Miss America, c'est concernant la robe de soirée, chaque candidate pourrait se présenter dans la tenue qu'elle souhaite. Finalement, c'est peut-être déjà un peu plus cela, la liberté. Mais il y a encore beaucoup d'évolutions à avoir pour que les concours soient véritablement émancipateurs pour les femmes. Et puis peut-être même tout simplement qu'on se rende compte que ce format-là est loin d'être synonyme de liberté ou même d'égalité pour les femmes.
L'une des porte-paroles d'Oser le Féminisme avec Élodie Forêt.
8h11, c'était la nuit de tous les coups de foudre.
Nuit blanche dans le ciel de France, 15 000 impacts de foudre recensés cette nuit, record battu. C'est le Doubs qui a été le plus frappé avec plus de 3 000 impacts devant la Seine-et-Marne et la Nièvre. Et ce temps de cochon qui s'éternise depuis des jours a des conséquences pour les agriculteurs. Impossible de faucher les foins et de les sécher pour l'alimentation des bêtes. Reportage en Dordogne, Willy Moreau.
La pluie continue de tomber sur la cinquantaine d'hectares de prés d'un Laritou, agriculteur à Château-l'Évêque.
Ah, l'herbe est couchée, oui. L'herbe a mis les pieds, elle tombe, elle va se pourrir.
Le problème pour lui, ce n'est pas de sortir les machines sous la pluie.
On peut toujours faucher, mais après, ça fait du fumier. Si on ne peut pas le ramasser, quand le foin n'est pas bon, les bêtes ne mangent pas, quoi.
Elles sont exigeantes, ces 50 vaches limousines, d'autant plus qu'elles ne pourront peut-être pas manger autant que d'habitude. 180 tonnes, la moyenne annuelle de récolte d'Alain, ce sera difficile à atteindre cette année. Et surtout, la qualité sera certainement déterminée. Explique Camille Ducourtieu. Elle conseillait en fourrage à la Chambre d'agriculture de la Dordogne.
Quand on est au stade floraison, les graminées commencent à perdre leurs feuilles. On perd en qualité parce qu'on va perdre de la valeur azotée et de la valeur énergétique.
Du coup, dans son étable de Château-l'Évêque, Alain devra compenser en fin d'année.
De l'aliment peut-être, pour complémenter. 280 euros la tonne.
Alors avant de compter ses pertes en fin de saison, Alain attend le soleil impatiemment en entretenant sa fauche.
Reportage Willy Moreau, France Bleu Périgord. Ce matin, il n'y a plus d'alerte aux orages, mais 5 départements restent sous surveillance aux crues et aux inondations. Les 2 départements des Charentes, la Vienne, les Deux-Sèvres et l'Eure. En Ile-de-France, sachez que la Francilienne est fermée dans le Val-d'Oise à cause d'une inondation. S'il vous arrive de pirater votre série télé préférée, Nicolas, sachez que vous n'êtes pas seul. 12 millions de Français regardent régulièrement des vidéos sur des sites illégaux. C'est un peu moins que les années précédentes. Séries et films d'action sont les plus recherchés, mais la nouveauté, c'est l'essor du piratage des événements sportifs, des matchs de foot notamment, diffusés en direct, gratuitement et en streaming, et qui font de l'ombre aux chaînes payantes. À Roland-Garros, un Italien, invité surprise des demi-finales, Marco Cecchinato, 72e joueur mondial. Il a sorti Novak Djokovic, lui qui, avant d'arriver à Paris, n'avait jamais remporté le moindre match en tournoi du Grand Chelem. Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem pour une place en finale du tournoi. Et puis en football, les supporters de Lille peuvent respirer. Le LOSC sauve sa peau en Ligue 1 sur décision hier soir du gendarme financier du foot.
Et là, de l'aveu des spécialistes, c'est une petite merveille.
12 mètres de long, 4 mètres de haut et des mâchoires à vous couper le souffle, et pas que le souffle d'ailleurs. L'un des plus beaux spécimens de tyrannosaure, l'un des mieux conservés au monde également, pose son squelette en France le temps d'un été. Sophie Bécherel a pu croiser la bête en avant-première au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Dès l'entrée, nous voici plongés dans le Crétacé, 67 millions d'années en arrière, grâce à la sonorisation d'Edgar Nicoulot.
Il faut s'imaginer l'Amérique du Nord qui est coupée en deux, du nord au sud, par une espèce de grande mer intérieure qui s'appelait la Grande Mer Intérieure de l'Ouest.
Ronan Alain, commissaire de l'exposition.
Il y avait des mosasaures, des reptiles marins, il y avait des ptérosaures qui passaient au-dessus de cette mer, qui venaient y pêcher. Et petit à petit, cette mer va se résorber, il va y avoir une baisse du niveau marin. Et Trix va vivre dans un milieu relativement humide, il n'y a pas d'hiver froid. On est passé d'un monde de conifères à un monde de plantes à fleurs. On a 70% de la végétation qui est composée de plantes à fleurs.
Une fois familiarisé avec le milieu, présentation de la bête. Découverte au Montana, désormais installée dans un musée de Leiden aux Pays-Bas, Trix est une femelle T-Rex de 4 mètres de haut, poids estimé 8 tonnes, un spécimen exceptionnel selon le directeur du muséum, Bruno David.
C'est la première fois qu'on a un original de T-Rex en France. C'est un petit peu comme si on faisait venir le David de Michel-Ange de Florence au Louvre. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je le compare à un félin bondissant. Le crâne est à la hauteur des visiteurs et même des enfants. On a vraiment l'impression que le T-Rex va nous sauter dessus pour nous dévorer. Ça donne une impression de dynamique et de vivant incroyable, même si c'est un squelette.
Un T-Rex à Paris, c'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 septembre. C'est aussi au cinéma avec la sortie de Jurassic World, le cinquième de la série. Encore plus effrayant, paraît-il, que les précédents. Enfin, vous connaissez la formule, Nicolas. Au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais combien ont vu la chance leur tomber dessus deux fois de suite? Eh bien, au moins un joueur. Il est français, il a parié en Haute-Savoie. Il avait gagné le pactole d'1 million il y a 18 mois au My Million. Il vient de récidiver au même jeu, même montant, 1 million dans la poche. La probabilité était assez faible. Je vous la donne quand même, une chance sur 16 000 milliards de gagner deux fois le gros lot.
C'est pas beaucoup. Merci Marc Fauvel.